Quelle joie de voir l'organisation de Jéhovah en marche! L'accroissement est manifeste, non seulement dans le nombre de ceux qui proclament l'année favorable de notre Dieu, mais aussi dans la qualité de leur prédication, ainsi que dans l'extension et la qualité du paradis spirituel qui résulte de cette prédication. Quant à vous, personnellement, quelle part avez-vous à ces bénédictions de Jéhovah? Devant l'ampleur du cri de louange qui monte vers notre grand Créateur, avons-nous le cœur gonflé de joie en songeant que nous avons l'honneur d'y participer en personne? Ou bien pensons-nous à ce que nous aurions pu faire? Ce qui compte, ce n'est pas la quantité de ce que nous avons accompli, mais le zèle avec lequel nous avons servi. Jésus, parlant de la veuve qui avait mis seulement 2 pièces de moindre valeur dans le coffre du trésor, a dit « Cette pauvre veuve a mis plus que tous, car tous ont mis de leur superflu, mais elle, de son indigence, a mis tout ce qu'elle avait, toutes ses ressources. » À l'instar de cette veuve, il y a aujourd'hui dans l'organisation de Jéhovah beaucoup de proclamateurs qui donnent généreusement de leurs ressources et en prédication de leur énergie. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas aussi entiers dans leur service et leur participation financière. Combien ont un point de vue apathique de la prédication, ne ressentant pas, pour une raison ou une autre, la nécessité de lutter avec énergie dans le service du roi? Ceux-là ne suivent pas l'exemple de notre Seigneur, qui, pendant sa vie terrestre, a pu prendre à son compte ces paroles de Jean 2,17 « Le zèle pour ta maison me dévorera ». Que peut-on faire pour encourager les chrétiens apathiques à servir davantage encore les intérêts du royaume? Paul a dit « Faites votre besogne sans traîner, soyez enflammés de l'esprit, servez Jéhovah comme des esclaves ». Aujourd'hui, dans la partie finale des jours, se relâcher dans le service sacré, se contenter d'une participation symbolique au ministère, c'est courir à la catastrophe. Le drame que vous allez entendre maintenant s'intitule « Faisons la volonté de Dieu avec zèle ». Dans quelle mesure vous sentirez-vous concerné?
Frère Émilet, j'ai vivement apprécié la réunion que tu as tenue avec notre collège d'anciens. Aucun d'entre nous ne s'était rendu compte à quel point l'activité et l'accroissement de la congrégation viennent surtout des pionniers, et très peu des proclamateurs.
Votre moyenne d'heure est élevée, et il y a un bel accroissement. Et puis, vous avez très peu de proclamateurs irréguliers. À première vue, c'est un bon rapport. Mais si tu enlèves les quelques proclamateurs qui prêchent de nombreuses heures, la moyenne baisse considérablement.
Maintenant, je le constate aussi, et comme je suis surveillant au service, je vais me préoccuper de ceux qui seraient capables de faire plus. Quant à la suggestion que tu nous as faite d'utiliser les index des publications de la société pour trouver des idées sur la façon d'augmenter notre ministère, elle s'est déjà avérée très utile. J'ai commencé à sélectionner des idées et des récits que j'ai trouvés, par exemple, aux rubriques témoignages et témoignages informels. Notamment les récits qui, à mon avis, pourraient aider en particulier un proclamateur auquel je pense. En les lisant seulement pour moi, j'ai été grandement encouragé.
C'est vrai que la lecture de ces sujets nous donne de nouvelles idées et nous encourage aussi à une activité plus ailée.
C'est bien vrai. Et je suis également content que tu puisses m'accompagner dans cette visite pastorale que nous allons faire à Suzanne Meyer. Il s'est certainement passé quelque chose pour qu'elle ralentisse son activité de façon si alarmante et en si peu de temps. Je n'ai jamais réussi à cerner son problème.
Il va falloir voir ça de plus près, Michel. Avant de pouvoir faire quoi que ce soit pour l'aider, ou même de décider par où commencer, nous avons besoin de savoir où est son problème. Ou plutôt, de savoir s'il y en a un.
Voilà, c'est ici qu'elle habite. Je vais sonner. Je suis sûr que tu apprécieras Suzanne. C'est une sœur vraiment gentille. J'espère que nous pourrons faire quelque chose pour elle.
Nous essaierons, c'est sûr.
Bonjour, Suzanne.
Oh, bonjour.
Si tu avais quelques instants à nous accorder, cela nous ferait plaisir.
Oh, c'est très gentil à toi et à frère Émilie de me rendre visite. Entrez donc.
Merci, sœur Meyer.
Vous prendrez bien une tasse de café ou de thé ou autre chose. Voulez-vous vous asseoir ici? Ça fait moins solennel que dans le séjour.
C'est très bien. Sers-moi ce que tu as, ça me conviendra tout à fait.
Pareil pour moi.
Frère Émilie, nous sommes heureux de vous avoir dans la congrégation cette semaine, toi et ta femme. J'ai rencontré sœur Émilie à la réunion. Elle est très gentille.
Merci.
Vous n'êtes pas là pour une simple visite amicale. Sinon, vous auriez emmené vos femmes. Et puis, je suis sûre que de toute façon, vous n'avez pas beaucoup de temps pour faire de telles visites. Vous êtes venu me parler de mon activité de prédication, n'est-ce pas?
Eh bien, oui. Nous nous intéressons à ton service pour Jéhovah. Comme tu t'y intéresses toi-même, nous en sommes certains.
Frère Okané m'a beaucoup aidé et encouragé. Mais ces derniers temps, j'ai le sentiment que je ne suis pas capable de faire autant qu'à une certaine époque.
As-tu une idée de la raison pour laquelle tu ne fais pas autant qu'avant?
Eh bien, non. Il y a des périodiques que j'ai vraiment plaisir à proposer aux gens.
Et d'autres non, c'est cela?
Oui.
Puis-je te demander quel genre de périodique?
Je ne sais pas. Eh bien, ne penses-tu pas que parfois, nous insistons trop sur Armageddon et la grande tribulation? J'éveille beaucoup plus l'intérêt des gens quand je leur parle des bénédictions du royaume.
Oui, il faut effectivement que nous leur donnions cette espérance. Paul dit qu'elle est une ancre pour notre âme. Elle nous incite à aller de l'avant, nous aide à traverser les épreuves. Et c'est une facette importante du message du royaume. Tiens, regarde ce que Jésus a dit quand il a attiré l'attention sur sa mission, qu'Ésaïe avait annoncé en Ésaïe 61, 1 et 2. L'Esprit du souverain Seigneur Jéhovah est sur moi, parce que Jéhovah m'a oint pour annoncer aux humbles une bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la liberté à ceux qui ont été emmenés captifs, et aux prisonniers l'ouverture toute grande des yeux. Pour proclamer l'année de bienveillance de la part de Jéhovah et, note bien ceci, le jour de vengeance de la part de notre Dieu. Et ça, c'est une facette très importante du message du royaume.
Mais certains disent que nous faisons peur aux gens pour qu'ils deviennent témoins de Jéhovah, comme d'autres qui prêchent le feu de l'enfer.
Mais toi, tu ne crois pas cela, n'est-ce pas?
Non. Cependant, j'ai été élevée dans la religion catholique. Et je sais quel effet peut avoir l'enseignement du feu de l'enfer.
Est-ce une chose qui t'a marqué à ce point?
Oui, quand j'étais enfant.
Pourtant, est-ce par peur d'Armageddon que tu t'es voué à Dieu et fait baptiser?
Non. D'ailleurs, j'ai été réellement soulagée d'apprendre que l'enfer, c'est la tombe, et que les morts ressusciteront.
N'as-tu jamais entendu des gens dire que leur enfer, c'est sur terre qu'ils le vivent?
Ma sœur le dit tout le temps.
Alors, Ne crois-tu pas que ce serait pour elle un soulagement de savoir qu'Armageddon fera disparaître des conditions si pénibles? Le paradis sur Terre ne pourra pas être établi tant que le système de Satan ne sera pas éliminé.
Je sais, mais ma sœur conteste presque tout ce que la société écrit sur l'Église catholique. Par exemple, les articles de la tour de garde que nous avons eus sur Babylone la Grande. Je lui avais offert un abonnement à ce périodique. Mais quand elle a vu ce qu'il disait sur l'Église catholique, elle m'a demandé de ne plus jamais lui parler de la vérité.
Oui, c'est vrai que des gens croient qu'il est mal de critiquer la religion des autres. Mais Jésus l'a fait, n'est-ce pas? Pourtant, j'en suis sûr, tu ne penses pas qu'il avait tort.
Non, bien sûr que non. Mais c'était Jésus.
C'est exact. Cependant, ne nous a-t-il pas laissé un modèle pour que nous suivions bien ses traces? Laisse-moi te poser une question, Suzanne. À quoi Jésus pensait-il quand il a dit qu'il avait pour mission de proclamer la liberté à ceux qui ont été emmenés captifs et aux prisonniers l'ouverture toute grande des yeux? Il pensait aux mensonges religieux, n'est-ce pas? Or, comment les gens peuvent-ils être libérés de ces mensonges religieux si on ne réfute pas les doctrines qui déshonorent Dieu?
Mais ma sœur ne veut jamais en entendre parler. Elle ne croit pas que ces doctrines sont fausses.
Et c'est ce qu'on lui a enseigné toute sa vie. Mais pour toi, c'était pareil, non? Et puis, quelque chose ou quelqu'un t'a incité à écouter pour découvrir la vérité. Rappelons-nous, beaucoup n'ont pas écouté même Jésus, n'est-ce pas? Pourtant, est-ce que cela a refroidi un tant soit peu son zèle? Non, puisque j'en rapporte qu'il a dit à son père « Le zèle pour ta maison me dévorera ». Il était plus décidé que jamais à défendre le nom de Jéhovah et à soutenir le vrai culte de son père, parce qu'il savait que cela libérerait ceux qui prêteraient une oreille attentive. N'es-tu pas heureuse que le frère ou la sœur qui t'a fait connaître la vérité ne se soit pas découragé du fait que beaucoup n'écoutent pas?
Oh, si.
Penses-tu que nous devrions nous retenir de dévoiler le faux culte à ceux qui ont le cœur réceptif pour la seule raison que certains refusent d'écouter?
Je suppose que non. Mais ce n'est pas facile d'affronter ceux qui sont très opposés.
Hein, c'est vrai, Suzanne. Souviens-toi de Jérémie. Ce n'était pas facile pour lui non plus. Pourtant, rappelle-toi que Jéhovah l'a rendu solide comme une colonne de fer et des murailles de cuivre contre tout le pays. Son zèle pour Jéhovah l'a poussé à proclamer les jugements de Dieu contre ses contemporains. C'était dans ses eaux comme un feu qu'il ne pouvait réprimer. Cependant, réfléchis un instant. La mission de Jérémie ne consistait qu'à proclamer les jugements de Jéhovah. Par contre, pour un serviteur de Jéhovah chargé d'exécuter les pratiquants du faux culte, la mission n'allait-elle pas être bien plus dure? Prenons l'exemple de Jéhu. Tu te souviens de Jéhu?
Oh, si je m'en souviens. C'était vraiment un homme d'action.
Oui, il n'a toléré aucun acte de rivalité contre Jéhovah. Mais qu'est-ce qui lui a donné pareil zèle? Regardons dans la Bible. Le récit commence en 2 Rois, chapitre 9. Il faut se rappeler que Jéhu conduisait un char derrière le roi Achab. Or, la reine Jézabel complota contre Naboth pour que cet homme innocent soit tué et que sa vigne devienne la possession d'Achab. Après cela, quand Élie est venu transmettre à Achab le jugement de Dieu contre lui et contre toute sa maison, Jéhu était présent. Élie annonça que de la famille d'Achab, il ne resterait plus personne, à cause des meurtres perpétrés par Achab et Jézabel et parce qu'ils adoraient Baal. Jéhovah dupa Achab. Celui-ci monta donc au combat et y mourut. Plantons le décor des événements qui ont suivi. Et pour cela, lisons le récit à partir de 2 Rois 8, 25, jusqu'au chapitre 9, verset 2. Dans la 12e année de Joram, fils d'Achab, roi d'Israël, Achazia, fils de Joram, roi de Juda, devint roi. Achazia était âgé de 22 ans quand il commença à régner, et pendant un an il régna à Jérusalem. Et le nom de sa mère était Athalie, petite-fille d'Omri, roi d'Israël. Et il marchait dans la voie de la maison d'Achab et faisait ce qui est mauvais aux yeux de Jéhovah, comme la maison d'Achab, car il était,
par alliance,
un parent
de la maison d'Achab. Il alla donc avec Joram, fils d'Akab, à la guerre contre Hazaël, roi de Syrie. Quant à Kazia, fils de Joram, roi de Juda, il descendit pour voir Joram, fils d'Akab, à Jisréel, car il était malade. Et Élisée, le prophète, appela l'un des fils des prophètes, et il lui dit alors « Saint tes reins, et prends dans ta main ce flacon d'huile et va à Ramoth-Galaad. Quand tu y seras entré, distingue-là Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi, et tu devras entrer et le faire se lever du milieu de ses frères et le conduire dans la chambre la plus retirée. »
Les blessures de Joram guériront avec le temps. Il n'a pas été frappé d'un coup mortel.
De toute façon, on n'a pas besoin de lui ici, à Ramoth-Galaad. La défaite de Hazaël a été totale.
Jéhu, penses-tu que le roi de Syrie attaquera encore bientôt?
Pas tout de suite, Bidkar. Nous tenons maintenant à Ramoth-Galaad une position solide pour un certain temps. J'en suis sûr.
Ben-Hadad était un homme de guerre. Mais son successeur, ce Hazaël, c'est un homme violent et ambitieux.
Et pourtant, j'ai ouï dire qu'Élisée en personne l'a oint roi de Syrie. Crois-tu que ce soit vrai, Jéhu?
Oh, évidemment que c'est vrai, Shéchan.
Mais de quel droit un homme de Dieu peut-il oindre un roi de Syrie?
C'est une mission qu'Élie a reçue de la part de Jéhovah lui-même. Élisée, successeur d'Élie, a rempli cette mission. Cependant, il n'a pas oint Hazaël avec de l'huile.
Que veux-tu dire?
Eh bien, quand Hazaël est venu voir Élisée pour lui demander si Ben-Hadad guérirait de sa maladie, Élisée lui a simplement dit « Ben-Hadad se remettra, mais il mourra. Jéhovah t'a montré à moi comme roi sur la Syrie. »
Mais c'est ce qui a incité Hazaël à tuer Ben-Hadad. Hazaël a mouillé une couverture, l'a étendu sur le visage de Ben-Hadad, ce qui l'a étouffé.
Tu as raison, Shéchan. Et Hazaël est devenu roi à sa place. Qu'est-ce que tu en dis, Jéhu?
On ne peut pas attribuer ce péché à Élisée. Hazaël a été poussé par sa propre ambition. Mais il est juste que Ben-Hadad soit mort. Rappelez-vous. Lorsque Josaphat s'est allié à Akab dans sa campagne pour reconquérir cette ville, Ramoth-Galaad, elle était aux mains de Ben-Hadad, n'est-ce pas? Dans cette bataille, Ben-Hadad a ordonné aux 32 chefs des chars de ne combattre qu'un seul homme, Akab.
Mais au lieu d'Akab, c'est après Josaphat qu'ils sont allés. Il a failli perdre la vie dans cette bataille, je me souviens.
C'est vrai, parce que Akab s'était déguisé. Mais pas Josaphat.
De toute façon, que faisait un homme zélé comme Josaphat, un véritable adorateur de Jéhovah, à combattre aux côtés d'un homme comme Akab?
Peut-être Josaphat a-t-il pensé qu'il pourrait unir les deux royaumes.
Oh.
Ne s'est-il pas allié par mariage avec la maison d'Akab, en mariant son propre fils à Athali, la fille d'Akab et de Jézabel?
Mais c'est ce que tu supposes, Shéchan. Tu ignores pourquoi Josaphat a fait une alliance avec Akab.
Ah.
Quelle que soit sa raison, et même si c'était bien intentionné de sa part, Jéhovah a désapprouvé l'action de Josaphat parce qu'il avait formé un attelage mal assorti avec un incroyant. Mais, étant donné que Josaphat a été zélé pour le vrai culte, Jéhovah lui a fait miséricorde. Sinon, il serait mort ce jour-là en même temps que Akab.
La mort d'Akab était inévitable. Il a peut-être pensé qu'en se déguisant, il pouvait conjurer la condamnation que Jéhovah avait prononcée par Élie. Mais c'était insensé. Une flèche perdue, tirée par un soldat syrien, l'a atteint entre les jointures de son armure et l'a tué.
Mais Jéhu, ne nous as-tu pas raconté que toi et Bidkar étiez là quand Élie a prononcé ce jugement? Or, il a dit que toute la maison d'Akab devait être anéantie et que même Jézabel serait mangée par les chiens. Combien d'années ont passé depuis qu'Élie a fait cette prophétie à Akab?
Ah, mais Akab est bien mort et les chiens ont bien léché son sang, conformément à la décision judiciaire.
C'est vrai. mais cela fait 14 ans que Akab est mort. Et il ne s'est rien passé d'autre. Et maintenant, Joram, le fils d'Akab et de Jézabel, règne à Samarie. Et Akazia, le fils d'Athalie, sœur de Joram, est roi de Juda depuis un an. Qu'est devenue la prophétie de Jéhovah ?
Ne parle pas à la légère de la prophétie ou du jugement de Jéhovah. Et ne te trompe pas toi-même en pensant que Jéhovah a oublié.
La parole de Jéhovah s'accomplira sans faute.
Regardez ! Quelqu'un vient. Qui est-ce ?
J'ai une parole pour toi, ô chef.
Pour lequel de nous tous ?
Pour toi, ô chef.
Entre dans la maison.
Voici ce qu'a dit Jéhovah, Dieu d'Israël. Je t'oins comme roi sur le peuple de Jéhovah, c'est-à-dire sur Israël. Et tu devras abattre la maison d'Akab, ton seigneur. Et je devrai venger de la main de Jézabel le sang de mes serviteurs les prophètes et le sang de tous les serviteurs de Jéhovah. Et toute la maison d'Akab devra périr. Et je devrai constituer la maison d'Akab comme la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et comme la maison de Baasha, fils d'Aïja. Et les chiens mangeront Jézabel dans la portion de terre de Jisréel, et personne ne l'ensevelira.
Bien. Pourquoi ce fou est-il entré vers toi ?
Vous connaissez bien les fils des prophètes et leur genre de conversation.
Non ! Raconte-nous, s'il te plaît. Qu'a dit cet homme ?
Il n'a pas dit grand-chose.
Mais quel était son message ?
Et puis, il m'a dit : voici ce qu'a dit Jéhovah, je t'oins comme roi sur Israël.
Oh, sonne du cor, Shéchan ! Jéhu est devenu roi !
Jéhu est devenu roi !
Si maintenant votre âme est avec mon âme, que personne ne s'échappe de la ville pour aller informer Jisréel. Qu'on prépare les chars. Nous partons sur l'heure pour Jisréel.
Ya, ya!
Plaisir de voir que tes blessures se referment si bien, Joram.
Je serai bientôt sur pied pour une autre rencontre avec Hazael. Je n'aurai de repos que lorsque je l'aurai repoussé en Syrie une bonne fois pour toutes.
Je vois une masse houleuse composée d'hommes.
Jadok !
Tu as appelé, monseigneur ?
As-tu entendu le veilleur ?
Oui, monseigneur.
Prends un cavalier et envoie-le à leur rencontre. Et qu'ils disent, y a-t-il la paix ?
Tout de suite, monseigneur.
Qu'est-ce que cela signifie, Joram ? Qui peuvent bien être ces hommes ?
Comment veux-tu que je le sache ? C'est bien pour cela que j'ai envoyé un cavalier à leur rencontre.
Serait-ce Hazael ?
Ça m'étonnerait. J'ai laissé Jéhu avec une garnison d'hommes à Ramoth-Galaad. C'est un homme de confiance. Il a conduit un char derrière Akab, mon père. Il ne laissera pas passer Hazael.
Le messager est arrivé jusqu'à eux, mais il ne revient pas.
Jadok !
Oui, monseigneur ?
Envoie un second cavalier et qu'ils disent, y a-t-il la paix ?
Tout de suite, monseigneur.
Vois-tu quelque chose, Joram ?
À cette distance, je ne vois que de la poussière. Mais le cavalier s'approche rapidement.
Il est arrivé jusqu'à eux, mais il ne revient pas. et la manière de conduire est comme la manière de conduire de Jéhu, petit-fils de Nimshi, car il conduit avec démence.
Jadok, Mathéna, attelez les chevaux.
Attelez aussi mon char de guerre.
Jéhu conduit comme un forcené. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais moi-même aller voir sur place. Pourquoi a-t-il quitté Ramoth-Galaad? Mathéna, viens ici. Tu resteras avec Jézabel pendant que Jadok et moi essaierons d'en savoir plus.
Bien, monseigneur.
Que se passe-t-il, Maaka? Que vois-tu?
Rien, maîtresse.
Rien, espèce d'idiote! Tu dois bien voir quelque chose.
Rien que de la poussière, maîtresse. Monseigneur le roi conduit à bride abattue à la rencontre de Jéhu.
Toi de la vie d'esclave bonne à rien! Mathéna, toi, qui as de bons yeux, dis-moi ce qui se passe là-bas.
Oui, maîtresse. Je ne vois rien de plus que Maaka. Il y a un grand nuage de poussière et...
Mais quelle bande de stupides! Laisse-moi voir! Il n'y a rien d'autre qu'un nuage de poussière.
Oui, maîtresse. Mais le nuage de poussière de Monseigneur le roi se rapproche de celui de Jéhu.
J'ai des yeux! Je vois la même chose que toi, idiot! Mais qu'est-ce qu'ils font?
Les deux nuages de poussière se sont rencontrés. On n'en voit plus qu'un maintenant.
Et on dirait que tout le monde s'est arrêté près de la portion de champ de Naboth, le Jizréélite. On va peut-être voir quelque chose maintenant.
Regardez, c'est Jadok. Il revient à toute allure.
Mais il soulève beaucoup de poussière. Tout ce que je vois, c'est qu'il revient fondre travers la maison.
Nous allons sans doute bientôt savoir ce qui se passe. Jadok est presque arrivé dans la cour.
Oh mon âme! Conspiration! Conspiration!
Qu'est-ce que tu veux dire? Que se passe-t-il?
Hélas, maîtresse, je n'ai qu'un malheur à t'annoncer.
Eh bien, mais parle! Qu'est-ce que cette conspiration, ce malheur?
Les deux rois ont rencontré Jéhu dans la portion de champ de Naboth, le Jizréélite. Je les suivais de près et j'ai entendu Joram crier: Y a-t-il la paix, Jéhu?
Alors, as-tu entendu la réponse de Jéhu?
En partie seulement, maîtresse.
Et alors, qu'a-t-il dit? En partie. Parle!
Il a dit: quelle paix pourrait-il bien y avoir tant qu'il y a...
Tant qu'il y a quoi, Jadok? Parle, abruti! Que s'est-il passé là-bas?
Il a dit: tant qu'il y a les fornications de Jézabel, ta mère.
Trahison!
Et ses nombreuses sorcelleries.
Je n'y vois rien. Ce ne sont que des silhouettes à cette distance. Et qu'a répondu Joram?
Il a crié vers Akasia: fourberie, Akasia! Et ils ont viré tous les deux pour fuir. Mais Jéhu lui-même a pris un arc et il a atteint Joram entre les bras. La flèche est sortie par le cœur et il s'est affaissé sur son char.
Trahison! Fourberie! Jéhu va me le payer de sa vie! Maaka! Arrange ma coiffure et fais-moi les yeux.
Tout de suite, maîtresse.
Je vais accueillir Jéhu.
Qu'est-il arrivé ensuite, Jadok?
Jéhu a dit à Bidkar: soulève-le, jette-le dans la portion de champ de Naboth, le Jizréélite. Je m'apprêtais à faire demi-tour quand il a raconté comment lui et Bidkar avaient conduit des attelages derrière Akab et comment Jéhovah avait proféré lui-même une déclaration solennelle contre Akab dans cette portion de terre. Nous étions là aussi quand Élie a fait cette prophétie, tu te souviens? Nous l'avons nous-mêmes entendu dire: oui, j'ai vu hier le sang de Naboth et le sang de ses fils, et à coup sûr, je te paierai de retour dans cette portion de terre. Telle est la déclaration de Jéhovah.
Regardez, Jéhu entre dans la cour. Il a certainement exécuté aussi Akasia.
S'est-il bien passé pour Zimri, le tueur de son seigneur?
Qui est avec moi? Qui?
Trahison! Fauberie! Que les dieux vous maudissent! Vous le paierez de votre vie!
Laissez-la tomber!
À nous, Mathéna!
S'il te plaît, monseigneur, assieds-toi ici. Tu dois avoir faim et soif. Voici du pain et du vin.
À ce jour, c'est bien fait attendre, j'ai eu. Mais Mathéna, jusqu'à aujourd'hui, je n'étais pas sûr de toi.
Comme j'ai servi Akab et Joram, de même, je servirai Jéhu. Jéhu a été un roi.
Et je n'aurai pas de repos tant que toute la parole de Jéhovah contre la maison d'Akab ne sera pas accomplie. Mais Jadok, va maintenant. Occupe-toi de cette maudite et ensevelis-la, car elle est fille de roi.
Ce sera fait.
Mathéna, sais-tu réellement que Jéhovah m'a donné mission d'anéantir la maison d'Akab et de venger le sang de tous les serviteurs de Jéhovah, le sang que Jézabel a versé?
C'est bien. Nous attendions vraiment ce jour.
Dans ce cas, tu verras à l'œuvre mon zèle. Tu verras que je ne tolère aucun acte de rivalité contre Jéhovah.
Il y en a d'autres aussi qui...
Monseigneur, c'est trop tard. Bidkar vient juste de nous dire ce qui s'est passé. Et quand nous sommes allés pour l'ensevelir, nous n'avons trouvé d'elle que le crâne et les pieds et les paumes des mains.
C'est la parole de Jéhovah. Dans la portion de terre de Jizréel, les chiens mangeront la chair de Jézabel. Et le corps mort de Jézabel deviendra, à coup sûr, comme du fumier sur la face de la campagne, dans la portion de terre de Jizréel, pour qu'on ne puisse dire « Ceci est Jézabel ». Et ainsi, la parole de Jéhovah s'avérera toujours exacte. Mais la parole de Jéhovah contre la maison d'Akab n'est pas encore totalement accomplie. Jadok, tu vas écrire une lettre au prince de Jizréel, aux anciens et aux tuteurs des enfants d'Akab. Jéhu, aux anciens de Samarie. Joram, fils d'Akab, votre seigneur, est mort de la main de Jéhu. Maintenant donc, au moment même où vous parvient cette lettre, il y a avec vous les fils de votre seigneur, et il y a avec vous les chars de guerre et les chevaux, ainsi qu'une ville fortifiée et les armes. Et vous devrez voir quel est le meilleur et le plus droit des fils de votre seigneur, et le mettre sur le trône de son père, à la place de Joram. Puis, combattez pour la maison de votre seigneur. Bidkar, envoie tout de suite à Samarie des copies de cette lettre. Nous devons agir vite.
Ce sera fait, monseigneur.
Quelles sont les nouvelles des princes, Bidkar? Est-ce la guerre?
Les princes ont eu très peur, monseigneur. Je suis allé voir celui qui est au-dessus de la ville, ainsi que les anciens, quand ils étaient avec celui qui est au-dessus de la maison. Et ils ont dit « Jéhu t'envoie-t-il avec la paix, Bidkar ?» Je leur ai donné la lettre que tu avais écrite. Et celui qui était au-dessus de la ville l'a lu à haute voix devant les autres. et ils ont commencé à trembler et à se dire les uns aux autres « Voici que deux rois, eux, n'ont pas tenu devant Jéhu. Et nous, comment tiendrons-nous » Alors ils t'ont envoyé cette parole. « Nous sommes tes serviteurs, et nous ferons tout ce que tu nous diras. Nous ne ferons personne, roi. Fais ce qui est bon à tes propres yeux. »
Ils ont bien parlé, Bidkar. C'est bien. Dis-moi maintenant, où sont les fils d'Akab? Se tiennent-ils cachés, ou bien sont-ils là avec les princes et les anciens?
Ils sont avec les anciens, mais ils n'étaient pas présents quand la lettre a été lue.
Tu as bien fait, Bidkar. Jadok, écris cette seconde lettre aux hommes principaux.
Tout de suite, monseigneur.
Voici ce que tu vas écrire. Jéhu, au prince de Jizréel, aux anciens et aux tuteurs des enfants d'Akab. La parole que vous m'avez dite est bonne. Par conséquent, si vous m'appartenez, et si vous obéissez à ma voix, prenez les têtes des hommes qui sont les fils de votre seigneur, et venez vers moi demain à cette heure-ci à Jizréel, les fils du roi, 70 personnes élevées par les grands hommes. Bidkar, prends Shéchan avec toi et un détachement d'hommes, et veille à ce qu'il soit fait comme je l'aurai écrit.
Et s'il refuse ?
Ils ne refuseront pas, quand ils verront que tu n'es pas seul. Mais si c'était le cas, reviens tout de suite.
À tes ordres, monseigneur.
On dirait que le zèle de Jéhu contre la maison d'Akab n'a pas faibli.
Et il ne va pas faiblir ! N'es-tu pas d'accord qu'il est chargé d'exécuter le jugement de Jéhovah conformément à la prophétie d'Élie ? Tu m'as bien aidé à jeter Jézabel dans la cour de la maison d'Akab.
Oh, mais Jézabel était une méchante femme. Elle méritait la mort. Est-ce que tous les fils et petits-fils d'Akab sont aussi coupables qu'elle l'était ?
Toi, tu n'approuves pas l'ordre d'exécution que Jéhu a envoyé au prince de Jizréel.
Jéhovah a-t-il disculpé Saül après le massacre des prêtres de Nob ?
Oh, comment peux-tu comparer le meurtre de ces fidèles prêtres du vrai Dieu, Jéhovah, avec l'exécution des fils d'Akab, ces adorateurs de Baal ? C'est Jéhovah lui-même qui a prononcé son jugement contre eux.
Dis-tu cela à cause de ce qu'a déclaré Élie ?
Oui, je l'ai entendu. Et toi aussi !
Mais comment pouvons-nous être sûrs que c'est vraiment le jugement de Dieu ? Et que la colère de Dieu ne va pas se retourner contre nous.
C'est vraiment le jugement de Dieu. Jéhu est celui que Jéhovah a oint pour exécuter ses jugements. Prends garde, Mathéna. N'attire pas toi-même la colère de Dieu sur toi en luttant bel et bien contre Dieu.
Monseigneur, les hommes principaux ont obéi à ton ordre et ont abattu tous les 70 fils du roi.
C'est bien.
On a apporté ici leurs têtes dans des paniers.
Les paniers sont dans la cour et les hommes attendent tes ordres.
Mettez-les en deux temps à l'entrée de la porte de la ville, jusqu'au matin.
Ce sera fait, monseigneur.
Ah, mais faut-il infliger cet outrage supplémentaire à ces hommes qui étaient fils de roi?
Les gens du peuple doivent savoir avec certitude que le jugement de Jéhovah a été exécuté et que Dieu incontestablement m'a oint comme roi.
Au contraire, ce spectacle ne va-t-il pas les horrifier et choquer leur conscience?
Vous êtes innocents. C'est vrai que j'ai conspiré contre mon seigneur et je l'ai tué. Mais cela ne fait pas de moi un meurtrier ordinaire. Vois,
qui a abattu tous ces fils du roi? Ce sont les hommes les plus éminents de Samarie. Mais leur action fait-elle d'eux de simples meurtriers? Bien sûr que non. Eux et moi, nous sommes seulement l'épée de Jéhovah pour l'exécution du décret de Jéhovah. Sachez donc qu'il ne tombera à terre rien qui soit resté non accompli de la parole de Jéhovah, de celle que Jéhovah a prononcée contre la maison d'Akab. Et Jéhovah lui-même a fait ce qu'il avait dit par l'entremise de son serviteur, Élie.
Il y a encore ceux qui restent de la maison d'Akab, à Jisréel.
Et tous ces hommes de distinction, et ceux qui sont de sa connaissance, et ses commandants. Eux aussi doivent être abattus, jusqu'à ce qu'il ne reste aucun survivant à Akab. Nous devons nous en charger tout de suite, car je dois partir pour Samarie. Bidkar, prends Shéchan et prépare les hommes. Jadok et toi, Mathéna, vous nous précéderez à Samarie et préparerez une proclamation que vous répandrez dès votre arrivée. Rassemblez tout le peuple et dites-lui, Akab, lui, a adoré Baal un peu. Jéhu, de son côté, l'adorera beaucoup. Maintenant donc, convoquez près de moi tous les prophètes de Baal, tous ses adorateurs et tous ses prêtres, qu'il n'en manque pas un seul, car j'ai un grand sacrifice pour Baal. Quiconque manquera ne restera pas en vie.
Mathéna, que vas-tu faire à présent?
Obéir à l'ordre du roi.
Et vas-tu aller avec les adorateurs de Baal?
Comme j'ai servi Akab, je servirai Jéhu. Comme il fera, je ferai.
Tu es fou, Mathéna! Est-ce ainsi que tu considères le zèle de Jéhu au service de Jéhovah? Le roi d'Israël, c'est Jéhovah! Jéhu,
Jonadab, que Jéhovah soit avec toi. J'espérais bien te rencontrer.
J'ai entendu parler de tes victoires pour la cause de Jéhovah. Je te cherche depuis le moment où j'ai appris que tu avais égorgé 42 parents d'Akazia en allant à Samarie.
Ton cœur est-il droit envers moi, comme mon cœur l'est envers ton cœur?
Il l'est.
S'il l'est, donne-moi ta main, monte sur mon char, viens avec moi et vois que je ne tolère aucun acte de rivalité contre Jéhovah.
Ya! Ya!
Autant d'adorateurs de Baal en Israël. La maison de Baal est remplie d'un bout à l'autre.
C'est vrai, ils ont bien répondu à la proclamation de Jéhu. Ce sera certainement un grand sacrifice à Baal.
Mais n'as-tu pas encore compris pourquoi Jéhu a convoqué cette assemblée?
Mais Jéhu a bien dit. Akab, lui, a adoré Baal un peu. Jéhu, de son côté, l'adorera beaucoup.
Le culte de Jéhovah a-t-il si peu d'importance pour toi? Ou penses-tu qu'il ait si peu d'importance pour Jéhu?
Jéhu a finalement abattu tous ceux qui restaient de la maison d'Akab à Samarie. Il les a complètement anéantis. Et quel rapport avec le culte qu'il voue à Jéhovah?
Il a agi selon la parole de Jéhovah prononcée par l'intermédiaire d'Élie. C'est parce qu'il ne tolère aucun acte de rivalité contre Jéhovah. Jéhu, je le sais, est convaincu que Jéhovah fera en sorte que son jugement contre Baal soit exécuté, tout comme il l'a fait sur la maison d'Akab.
Malgré tout, Jéhu a proclamé une assemblée solennelle et un grand sacrifice à Baal. Et je compte bien y être présent.
Athéna est-il entré pour se joindre aux adorateurs?
Oui, monseigneur.
Et toi, Jadok, tu vas y aller aussi?
Ah non, monseigneur.
Ne t'ai-je pas moi-même demandé de publier un décret selon lequel tous les adorateurs de Baal devaient s'assembler pour un grand sacrifice?
Excuse-moi, monseigneur, mais je ne suis pas un adorateur de Baal. Pas plus que je ne l'étais avant que meure Akab, par le jugement de Jéhovah. Je suis un adorateur de Jéhovah.
Jadok, tu es un homme bon et fidèle. On a bien gardé secrètes les intentions réelles que j'avais en convoquant cette assemblée. Toi et Jonadab, vous serez témoins du zèle avec lequel j'exécuterai le jugement de Jéhovah contre la maison de Baal. Tous ceux qui sont à l'intérieur ont revêtu leur costume d'identification. On a fouillé soigneusement pour s'assurer qu'il n'y a aucun adorateur de Jéhovah parmi eux. Toi, Bidkar, ainsi que Shéchan, restez ici. Jonadab et moi, nous allons entrer. L'holocauste est presque terminé. Quand ce sera fini, vous trois, entrez par ici et en même temps que vous, 80 autres hommes entreront par la porte de devant. Il en sera pour vous comme pour eux. Quant à l'homme qui s'échappera parmi les hommes que je livre en vos mains, l'âme de l'un paiera pour l'âme de l'autre. Viens, Jonadab.
Oh, regardez, c'est Jéhu. Que fait-il?
Entrez! Abattez-les!
Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe?
Que pas un seul ne s'échappe!
Et les coureurs et les aides de camp commencèrent à les abattre du tranchant de l'épée et à les jeter dehors. Ils allèrent jusqu'à la ville de la maison de Baal. Ainsi, Jéhu anéantit Baal du milieu d'Israël.
Ainsi Jéhu anéantit Baal du milieu d'Israël.
Il n'y a pas de doute, Jéhu était un homme zélé.
Tout à fait. Maintenant, rappelons-nous notre question du départ. Qu'est-ce qui lui a donné ce zèle? Suzanne, en as-tu une idée à présent?
Peut-être était-ce le fait qu'il avait été oint par le prophète de Dieu?
Certes, son onction lui a donné l'autorité. Toutefois, qu'est-ce qui lui a donné cet ardent désir de s'acquitter de sa mission? Cet enthousiasme avec lequel il a exécuté, jusqu'au dernier, les membres de la maison d'Akab et tout adorateur de Baal sans en laisser un seul.
C'était, je suppose, parce qu'il savait qu'il faisait la volonté de Dieu.
C'est exactement cela. En outre, Jéhu donne l'impression d'être un homme prompt à l'action, prompt à s'acquitter de sa tâche sans la remettre au lendemain.
Et c'est comme cela qu'il faut être ?
Jésus a dit que c'était pour lui comme de la nourriture. Il a dit à ses disciples, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever son œuvre. » Or, Jésus est le grand Jéhu. Autre chose, Jéhu était courageux. Il devait savoir qu'on le critiquerait pour ce qu'il faisait, que même ses mobiles seraient, à tort, mis en accusation. Mais il n'a pas fléchi un instant.
C'est ce que tu as dit tout à l'heure, frère Émilet. Alors, que puis-je faire pour cesser d'être négative en ce qui concerne ma sœur ?
Tu aimes ta sœur, n'est-ce pas ?
Bien sûr.
N'aimerais-tu pas qu'elle obtienne la vie ?
Oh, bien entendu.
S'il te plaît, voudrais-tu lire le texte de Romains 10, 13 à 15 ? Tiens, prends ma Bible.
Car quiconque invoque le nom de Jéhovah sera sauvé. Mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas foi ? Et comment auront-ils foi en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment entendront-ils sans quelqu'un qui prêche ? Et comment prêcheront-ils à moins qu'ils n'aient été envoyés ? Comme c'est écrit, qu'ils sont jolis les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles de bonnes choses.
Comment pourrais-tu utiliser ce texte pour cesser d'être négative en ce qui concerne ta sœur ?
Je crois que je pense trop à moi et que je laisse la crainte de l'homme obscurcir mon jugement. Au lieu de cela, je devrais songer au moyen d'aider ma sœur sans la brusquer. Jean 17,3 dit « Ceci signifie la vie éternelle. Qu'ils apprennent à te connaître, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. »
Et Matthieu 7,21 déclare « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. »
Et nous pourrions ajouter « qui fait la volonté du Père avec zèle. »
Voilà encore autre chose, frère Émilet. Qu'est-ce qui nous donne un véritable zèle, ce zèle qui animait Jéhu ?
Te souviens-tu de ce que nous avons dit au sujet du zèle de Jéhu ?
Ah oui, il savait qu'il faisait la volonté de Dieu.
Et
il agissait sans tarder ?
Entre autres choses, oui. Et je crois que c'est particulièrement intéressant pour toi, vu l'état d'esprit que tu as entretenu. Tu sais, Suzanne, il y a des frères et des sœurs qui cultivent le même genre d'état d'esprit. Ils aiment Jéhovah et veulent faire sa volonté, mais ils se laissent aller à oublier temporairement ce que signifie vraiment l'offrande de leur personne à Dieu, c'est-à-dire un attachement exclusif à Jéhovah. En conséquence, ils en viennent à faire le minimum dans le service. Ou il y en a qui sont assez disposés à aller prêcher quand on le leur demande, et quand quelqu'un les tire, en quelque sorte. Mais, livrés à eux-mêmes, ils ne sont pas très constants. Ils ne sont pas ce qu'on pourrait appeler des battants.
Des battants ?
Le battant va de l'avant, peu importe les circonstances. Il va prêcher parce que ça fait partie de sa vie. Une vie d'activité zélée, d'amour de Dieu et du prochain, et parce qu'il sait qu'il fait la volonté de Dieu.
Et est-ce que tu crois que je pourrais devenir ce genre de proclamateur ?
Bien sûr que tu le peux. Tout le monde le peut.
Mais comment ?
C'est vraiment très simple. D'abord, évidemment, il faut que tu sois convaincu de ce que tu crois, comme Jonadab, dont le cœur était droit envers celui de Jéhu. Il a son parallèle dans la grande foule, qui, avec empressement, unit ses efforts à ceux du grand Jéhu, Jésus-Christ, dans son œuvre de jugement contre la fausse religion. Et ce n'est pas une chose difficile si tu reconsidères de près que tu t'es voué à Jéhovah. L'exemple des autres aussi est encourageant. Tu pourrais reprendre certaines des références données dans les index des publications de la société. Par exemple, sous les rubriques témoignages et témoignages informels. Tu seras vraiment stimulé.
L'idée me plaît. J'ai besoin de tous les encouragements que je puisse trouver.
Bien. Dans ce cas, prends un instant pour établir un programme auquel tu pourras te tenir si tu accordes la première place aux intérêts du royaume. Ensuite, suis ce programme d'aussi près que tu le peux, en étant honnête avec toi-même. Suis-le bien, jusqu'à ce qu'il te soit devenu presque naturel de consacrer un certain temps à la prédication. Au bout d'un moment, tu pourras te fixer de nouveaux objectifs et les atteindre. Et alors, tu constateras que tu avances avec l'organisation de Jéhovah. Sois convaincu que si tu t'offres à Dieu, tu en retireras des bienfaits.
Oh, merci, frère Émilé. Merci, frère Ocané. Je ne sais pas comment vous dire à quel point je suis touchée que vous ayez pris le temps de me rendre cette visite. Elle m'a aidée à comprendre que Jéhovah prend bien soin de nous par l'intermédiaire de son organisation. Et je crois qu'elle m'a donné envie d'avoir une activité plus zélée. En ce qui vous concerne, je sais que c'est le zèle qui vous a poussé à venir me voir. Le moins que je puisse faire, c'est de suivre vos conseils avec des efforts sincères.
Nous sommes très heureux de te l'entendre dire, Suzanne.
D'autres frères et sœurs à qui nous avons rendu visite ont réagi avec la même bonne volonté. Cela est de plus en plus évident. En Tite 2, 11 à 14, Paul a écrit que ceux qui sont délivrés par Christ Jésus et qui sont purifiés des pratiques illicites du monde deviennent vraiment un peuple zélé pour les belles œuvres.
Jéhu est pour nous un bel exemple de zèle. Par son empressement et sa promptitude à s'acquitter de sa mission et à exécuter les jugements de Jéhovah, il a été une figure remarquable de Jésus-Christ investi de la royauté au temps de la fin. Avec ardeur, le reste se joint au grand Jéhu, Jésus-Christ, et d'un même cœur, il mène à bien la tâche qui consiste à démasquer la fausse religion. Aujourd'hui, la grande foule, qui correspond bien à Jonadab, monte avec empressement dans le char, qu'est l'organisation visible de Jéhovah. La grande foule soutient avec zèle le grand Jéhu, qui ne tolère aucun acte de rivalité contre Jéhovah. Enthousiaste, elle contribue à dénoncer toute la fausse religion, son hypocrisie et son injustice. Ce n'est pas le moment d'être apathique ou de ralentir son activité. Pour faire la volonté de Dieu à l'heure actuelle, tous ceux qui sont unis par le cœur à l'esclave fidèle et avisé et au grand Jéhu doivent manifester un zèle sans réserve. Si vous êtes de cela, répondez donc à l'invitation du grand Jéhu. Donnez-lui votre main. Joignez-vous à lui avec un zèle fervent pour Jéhovah.